Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab et nous sommes de retour en studio.
Ouh, enfin !
Après une semaine et demie de long éloignement forcé. Un petit point sur les jeux concours actuellement proposés par Syllab. Plein de cadeaux pour le festival Mythos qui commence ce vendredi à Rennes. Des places à gagner pour le dimanche 30 mars au Cabaret Botanique. À 18h, CTA qui se produit pour tenter de gagner une place et d'entendre en live son émo-corps révolté. Vous avez besoin du mot de passe suivant.
Comète.
Comète, comme le titre de son dernier EP. Le même jour, au même endroit, juste après, à 21h, ambiance totalement différente et un peu plus reggae, avec le concert de Flavia Coelho et Fada Freddy. Là encore, vous avez besoin d'un mot de passe, et cette fois, il faut se rappeler du pays d'origine de Flavia Coelho. Le mot de passe, c'est...
Brésil.
Yeah. Et puis le 7 avril à 19h30, au Liberté, soirée plutôt électro en vue, au programme Synapson, Julia Granel et The Evener. Mot de passe...
Alexandre et Paul.
Ouais, quelle mémoire, Eva.
Eh oui, j'ai tout appris par cœur.
Eh oui, très bien. Alexandre et Paul, les prénoms des membres de Synapson, Synapson, je ne sais jamais comment on dit. À ne pas confondre avec ceux d'autres formations électro, je vous ai mis des petits pièges, attention.
Oh là là.
Et puis toujours le concours pour le spectacle Par d'autres voix d'André Sénatoré. Ça, c'est le jeudi 3 avril au triangle. Mot de passe.
Feu.
Feu, go. Yes. Tout de suite, le flash de Marianne.
Feu de forêt dévastateur en Corée du Sud. Le sud-est du pays est en proie à une dizaine d'incendies, parmi les pires de son histoire, selon les médias locaux. Le bilan est de 24 morts et de 12 blessés graves, selon les dernières informations du ministère de l'Intérieur du pays. Ces incendies, qui ont débuté le week-end dernier, ont déjà ravagé plus de 17 000 hectares de forêt. Ces incendies, aggravés par un temps sec et des vents violents, continuent de se propager rapidement. La lutte s'annonce encore longue et difficile pour les habitants et habitantes. Du nouveau dans l'affaire Gaëlle Perdriau, le parquet a requis ce matin un procès à l'encontre du maire et président de la métropole de Saint-Étienne. L'homme est accusé de chantage à la sextape auprès d'un conseiller opposé politiquement. On fait le point sur l'affaire avec Eva.
Chantage, soustraction, détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique et participation à une association de malfaiteurs. Tels sont les motifs pour lesquels le parquet lyonnais demande le renvoi de Gaëlle Perdriau devant le tribunal correctionnel. Aujourd'hui exclu de son parti, Les Républicains, l'accusé clame encore son innocence. Ce dernier n'a pas démissionné de son poste de maire de Saint-Étienne, bien qu'il se soit mis en retrait de ses fonctions à la tête de la métropole stéphanoise. Enregistrement audio à l'appui, Mediapart le met en cause en août 2022 pour un chantage mené à l'encontre de l'ancien premier adjoint centriste Gilles Artigue, alors son principal rival. Dans une vidéo, on peut voir l'homme se faire masser par un escort boy dans une chambre d'un hôtel parisien. L'enregistrement, réalisé en janvier 2015 grâce à une caméra cachée, aurait été réalisé par trois hommes, eux aussi renvoyés devant la justice par le parquet. Pierre Gauthierry, ex-directeur du cabinet du maire, fait face au même chef d'accusation que lui, mais également à ceux d'utilisation, conservation ou divulgation d'un document ou enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel. Samy Kéfi-Jérôme, ancien adjoint à l'éducation de la mairie de Saint-Étienne, comparait lui pour atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement pour transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel. Et enfin, l'ex-mari de ce dernier, Gilles Rossary-Langlais, est lui aussi renvoyé devant la justice pour complicité de chantage. C'est lui qui avait à l'époque révélé l'affaire à Mediapart.
Ensuite, 10 semaines de procès contre l'ancien président Nicolas Sarkozy et ses proches viennent de s'achever. Le parquet financier a commencé ses réquisitions concernant l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne de l'ancien président français. Hier, le procureur Philippe Jaeguelet a rappelé sa ligne directrice. Selon lui, prime l'application de la loi dans un souci de justice et d'impartialité, sans postulat de culpabilité. Il l'assure, le parquet n'a pas de positionnement figé. Les réquisitions doivent se tenir jusqu'à demain soir, quand seront formulées les peines requises. L'ex-chef de l'État encourt 10 ans de prison et 375 000 euros d'amende, ainsi qu'une privation de ses droits civiques pouvant s'étendre jusqu'à 5 ans. 24 heures de plus pour les grands-parents, l'oncle et la tante du petit Émile. Les gardes à vue des membres de la famille maternelle du garçonnet retrouvé mort pendant l'été 2023 ont été prolongés aujourd'hui. Il et elle sont entendus depuis mardi matin pour homicide volontaire et recel de cadavres, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de l'enfant, alors qu'ils étaient sous leur responsabilité. Après la saisie d'une jardinière, le 13 mars dernier, la justice a également récupéré pour expertise un véhicule SUV et une remorque à cheval en début de semaine. On n'en a pas fini d'entendre parler de lui. Johan Delourme, alias Le Jarl, chef de la sécurité de la discothèque rennaise 88 Live Club, s'improvise maintenant écrivain. Dans un livre intitulé « Ça va mal finir », il décrit en 370 pages, des actes de violence extrêmes et parfaitement assumés. Cette figure de l'extrême droite bretonne y prétend également avoir bénéficié de la complicité de certains membres des forces de l'ordre ainsi que d'un soutien financier d'une mairie. Une plainte a été déposée ce mardi auprès du procureur de Rennes par Marie Mesmer, députée LFI de la capitale bretonne, qualifiant ce livre d'appel à la violence fasciste. Récemment, le Jarl avait fait parler de lui suite aux violences du 8 mars dernier. Ce jour-là, une free party organisée aux abords de son club avait dégénéré. Les teufeurs et teufeuses avaient alors été violemment pris à partie par Johan Delourme et son équipe, dont les actes avaient été rapprochés de ceux d'une milice privée. Bonne nouvelle pour les assiettes de nos lycéens. Hier, le CEF de lycée Chateaubriand, 3600 repas par jour quand même, s'est vu remettre le label établissement bio engagé. Le restaurant collectif a pour spécificité de nourrir également les élèves de Joliot-Curie et du collège des Gailleuls. Il devient le 17e lycée breton à recevoir cette certification d'Interbio Bretagne, association promouvant l'agriculture biologique dans la région. Stéphanie Thébault, chargée de mission restauration collective et territoire de l'organisation, nous en dit plus sur ce label.
On a remis le label au lycée Chateaubriand de Rennes pour son engagement à l'introduction de produits bio dans son service de restauration. Et donc sur l'année 2023, on était à quasiment 24% d'introduction de produits bio dans son service de restauration. Aujourd'hui, on peut noter que 50% des approvisionnements viennent de Manger Bio 35. Donc ça veut dire que c'est des producteurs d'Ille-et-Vilaine qui ont approvisionné les produits. Le label, c'est 22% minimum de produits bio dans le service de restauration. Donc c'est deux points au-dessus de la loi Egalim. Donc nous, on va vérifier sur l'année civile N-1. Introduire plus de produits bio, ben, ça suppose d'aller déjà chercher des fournisseurs. Et puis, si on prend par exemple les fruits et les légumes, il va falloir souvent acheter des produits bruts. Et donc, ça veut dire les éplucher, les découper. Là, c'est vraiment l'idée de mettre en valeur le travail des équipes de cuisine. C'est souvent des petites mains qui sont derrière les fourneaux, derrière les comptoirs. On ne se rend pas toujours compte de leur travail. En Bretagne, on a des très bonnes filières en bio sur la production de légumes, sur la production de produits laitiers. Et puis sur de la viande, ça va être peut-être un peu plus difficile sur les fruits. Et puis après sur tout ce qui est épicerie sèche, pâtes, riz, sucre, farine, ça va être un petit peu plus compliqué de trouver des produits issus de la Bretagne.
Invité à prendre la parole pendant la remise officielle, un élève donne sa vision sur le sujet.
Ce label bio pourrait encourager cette structure à faire plus d'efforts pour, dans un avenir utopique, réussir à montrer que tous les lycées, tous les collèges de France pourraient avoir ce label. Peut-être que, dans un avenir utopique encore, on pourrait avoir une alimentation qui pourrait être à 50-70% bio, même si ça demande plus de travail. Essayer de rémunérer plus, essayer de marcher avec les agriculteurs, avec ceux qui fabriquent la nourriture, avec ceux qui la transportent. Je pense qu'aujourd'hui, ce label encourage un développement qui va vers la symbiose entre l'homme et la nature.
Bravo.
Et ce n'est pas fini, car la région a identifié 44 autres lycées éligibles à ce label. Bref, le bio a de l'avenir dans nos cantines bretonnes. Merci Cyriane pour ton reportage. Les supporters et supportrices du Stade Rennais aux Anges, cet après-midi, il et elle avaient le rendez-vous avec leurs joueurs et la mascotte Hermening pour une séance de dédicaces et de photos. Tout ça s'est déroulé à la Foire Internationale de Rennes au Parc des Expositions. Une dizaine de joueurs ont fait le déplacement pour renforcer les liens avec leur public dans un contexte sportif difficile après la défaite contre Lens. Les Rouges et Noirs rencontrent Angers ce dimanche pour tenter de relever la tête en championnat.
Merci Marilyn pour ce flash.
Six heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01. Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Dans le cadre de leur cours de médiation avec Dominique Chrétien, des élèves de L3 Art du Spectacle de Rennes 2 organisent Microplongeoir, un événement en lien avec l'association Au bout du plongeoir, qui aura lieu demain au domaine de Tizé. Pour nous en parler, représentante de sa promo, chemise à jabot rouge, lunettes rondes dorées et rouge à lèvres rosées, Joanne Lepommier, L3 Art du Spectacle Théâtre. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Joanne, peut-être que pour commencer, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre licence. Qu'est-ce que vous apprenez? Quel est le diplôme que vous préparez?
Alors, nous sommes en... Enfin, je suis... Bah, du coup, je parle au nom de tous mes camarades. On est en licence art du spectacle en troisième année. Et le but de cette licence, c'est d'apprendre les théories un peu du théâtre. Parce que je suis en parcours théâtre. Dans cette licence, il y a le parcours théâtre et le parcours cinéma. Et je suis dans le parcours théâtre. Et dans cette licence, on apprend de la théorie du théâtre, de l'histoire du théâtre. Il y a aussi des cours d'environnement professionnel avec des professionnels du secteur de la culture. Par exemple, on a eu une chargée de production d'un collectif d'auteurs qui s'appelle Lumière d'août. Mais on est encadré par plusieurs professeurs, et dont Dominique Chrétien, qui est notre professeur de médiation. Médiation culturelle, qui est professionnelle associée à la fac, et qui travaille à l'association Au bout du plongeoir.
Ok, et donc qui vous a mis en lien avec cette association dans laquelle il travaille. J'avais pas l'info, très intéressant. Est-ce que peut-être vous pouvez dire deux, trois mots sur cette association?
Oui, c'est une association de soutien à la création artistique qui est basée au domaine de Tizé.
À Torigny-Fouillard.
À Torigny-Fouillard. Et c'est une association qui a été créée en 2004. Parce que, voilà, ce sont des... Enfin, ils ont été... Enfin, cette association a été créée par différentes personnes qui étaient professionnelles de la culture, qui le sont toujours, et qui avaient besoin, justement, de créer un espace de création qui était destiné, justement, pour les professionnels. Voilà.
Et donc demain aura lieu le fruit de votre travail, j'imagine, de plusieurs semaines,
oui.
Cet événement micro-plongeoir. Est-ce que, avant de rentrer dans les détails de comment s'est passée l'organisation, vous pouvez nous parler de ce qui va se passer très concrètement demain ?
Très concrètement, les spectateurs, les spectateurs, on peut les appeler comme ça, qui vont venir nous voir demain, vont assister à une émission de radio. Ça va être trop trop chouette. On a créé ça tous ensemble, vraiment dans une bonne ambiance. C'est une émission radio où on parlera de culture. On parlera aussi de dossiers artistiques, de projets artistiques qui vont être soutenus par l'association Au bout du plongeoir. Et il y aura une partie aussi interview avec un membre fondateur de l'association.
Et pourquoi ce choix du son, de la radio? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette dimension radiophonique?
Dans l'organisation de cet événement, on était libre de choisir ce qu'on voulait. Vraiment en lien avec... On faisait partie de l'équipe de l'association, en fait. Et il y a une de mes camarades qui s'appelle Juliette qui a eu l'idée, voilà, pourquoi pas, de faire une émission de radio. Et ça a plu à tout le monde, et tout le monde a été hyper enjoué à l'idée de faire cette émission. Et on s'est dit que ce serait un bon médium, en fait, pour parler des projets, pour rencontrer le public aussi, parce que le public sera autour de nous. On a pensé que c'était une super idée, et Dominique Chrétien et ses collègues ont été totalement emballés par l'idée.
Et donc ça permet d'ouvrir la saison culturelle d'Au bout du plongeoir, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que cette association est basée dans un manoir, L'hiver, il fait un peu froid. ils partent, enfin toute l'équipe part en nomadisme, c'est le terme qu'ils utilisent. Et ils vont dans différents lieux qui les accueillent. Et au début du printemps, ils reviennent dans leurs locaux, au domaine des Tizé. Et c'est en fait l'événement qu'on organise, ça va être l'événement de réouverture au public.
Super. Et du coup, alors comment ça s'est passé, l'organisation de cet événement? Combien de temps ça vous a pris? Est-ce qu'il y a eu différentes étapes, des difficultés rencontrées en particulier, ou au contraire, est-ce que c'était plutôt assez facile?
Sur ce projet, on y est depuis le début du semestre, donc début du mois de janvier. Après, c'est sûr que ce n'était pas évident avec les blocus qui avaient majoritairement lieu le mardi. C'était le jour de notre cours. Okay. Mais on a trouvé des solutions, on s'est vu dans différents lieux de Rennes, notamment au Champ Libre. On a pu se rencontrer, voilà. Et les premières étapes de notre travail, ça a été déjà de découvrir les projets culturels qui vont être présentés au bout du plongeoir. Et on a eu juste une sélection, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets qui ont été sélectionnés par l'équipe de l'asso. Et nous, faut savoir qu'on est une équipe de 9 étudiants dans ce parcours médiation. Parce qu'il y a un autre parcours plateau dans notre formation, mais voilà, je parle que de la médiation pour ici. On est 9 personnes, et il fallait qu'on choisisse un projet culturel par personne. Et ces projets étaient sous forme de dossiers artistiques qu'on a pu lire, qu'on a pu feuilleter. Il y en avait une quinzaine, je pense, si je me rappelle bien. Donc au final, voilà, on a rencontré, on va dire, c'est comme une rencontre avec les projets. Et on a décidé de les présenter. Et ensuite, au niveau des étapes, ça a été très fluide. En fait, on s'est parlé, on a vraiment co-organisé la soirée. C'est vraiment ça. On était vraiment, on s'est dit que, on était vraiment ensemble. Tout le monde pouvait dire si on était d'accord, si on n'était pas d'accord. C'était très démocratique. Chacun avait son mot à dire et chacun avait ses petites idées à apporter. On a dû faire des choix aussi. On a dû renoncer à des envies qu'on avait dès le départ. Mais globalement, le résultat, c'est vraiment quelque chose qui est sorti de nos têtes et de nos cœurs.
Et cette expérience, du coup, très concrète, elle arrive à la fin de votre licence. Vous direz qu'elle vous a apporté quoi? Qu'elle vous a appris quoi qui pourrait vous être utile dans votre vie professionnelle ou pour le domaine pour lequel vous vous destinez?
Je pense, parler pour tout le monde, je pense que c'est une expérience hyper enrichissante en tout point. Faut savoir que dans notre cours de médiation, on l'a depuis l'année dernière. Et dans ce cours-là, on a pu rencontrer des artistes, on s'est déplacé, on a visité des lieux artistiques. Au premier semestre de cette année, on a eu une autre forme de cours de médiation. Et vraiment, là, c'est vraiment l'apothéose, quoi. On met en pratique vraiment tout ce qu'on a pu apprendre. On est chargé, du coup, d'accueillir le public. On a totalement organisé la soirée
de A à Z.
Donc de A à Z, donc c'est vraiment l'accueil du public, déterminer ce qu'on va donner à manger, enfin offrir à manger, enfin pas offrir parce qu'il y aurait quand même un tarif, mais sinon
la communication aussi.
Oui, voilà, la communication. On a créé le flyer, voilà, on a été à différentes étapes de l'organisation et c'est hyper intéressant.
Et donc, vous attendez, vous espérez combien de personnes demain?
Le plus possible, on espère le plus possible. Après, ça dépend des années. On n'a pas de nombre précis parce qu'on ne sait jamais à l'avance combien de personnes il y aura. Mais on espère, un peu plus de 50. Après, j'ai du mal à quantifier en général, donc j'ai un peu du mal à savoir si c'est beaucoup ou pas. Mais on espère beaucoup de personnes.
C'est gratuit?
L'entrée est gratuite. Voilà, c'est entrée gratuite pour tout le monde.
D'accord. Après, il y a de quoi se restaurer, si j'ai bien compris.
Là, exactement.
Ok. Et pour y aller, parce que du coup, c'est à Torigné-Fouillard, est-ce qu'il y a des bus? Est-ce qu'il y a des systèmes de covoiturage qui peuvent être mis en place?
Oui, tout à fait. En fait, c'est à Torigné-Fouillard, mais il faut savoir que c'est quasiment juste en face du lycée Ozanam à Cesson. C'est vraiment à la frontière de Cesson. Donc, il y a des bus qui peuvent aller. Et sinon, on peut faire la navette aussi entre le domaine de Tizé et le métro Via Silva, le métro B. On a moyen de faire cette navette-là, c'est totalement possible.
assez facilement alors.
Oui.
Moi j'avais une petite question par rapport à votre intérêt pour le théâtre, au fait qu'on soit dans une capitale culturelle, il se passe énormément de choses à Rennes. Est-ce que c'est une ville particulièrement intéressante pour aimer le théâtre, pour l'étudier, pour en faire ?
Oui, totalement. Moi, je suis rennaise, j'ai grandi à Rennes, je suis née à Rennes, j'ai fait toute. J'ai fait ma licence à Rennes. Avant ça, j'ai été 2 ans en études ailleurs, dans le centre de la France. Et c'est vrai que là, je me suis vraiment rendu compte que Rennes, c'était quelque chose. C'était très vivant, il y en a pour tous les goûts. Mais sans parler forcément que de théâtre, parce que moi, le théâtre, c'est pas mon domaine de prédilection à la base. Moi, je suis très spectacle vivant, concert, musique. Et c'est très vivant, même au niveau du théâtre, il y a pour tous les goûts. Il y a des petits théâtres, il y a le TNB, il y a des compagnies amateurs, des compagnies professionnelles. Il y a vraiment de quoi faire à Rennes, c'est foisonnant, il y a toujours quelque chose à voir, toujours quelque chose à faire. Et il y a beaucoup de jeunes artistes à soutenir. Et je trouve que Rennes, c'est vraiment un foyer de création artistique hyper intéressant. Et il faut préserver ça.
Mmh. Et des artistes à soutenir dans la programmation d'Au bout du plongeoir, quelques spectacles que vous avez envie de conseiller, qui vous donnent particulièrement envie ?
Justement, dans l'émission radio qu'on va présenter demain, on présente quelques projets qui nous tiennent à cœur. Et le projet que moi j'ai choisi, c'est un projet qui s'appelle « J'ai vu l'eau vive ». Malheureusement, j'ai un trou de mémoire tout de suite sur le nom de l'artiste. J'en suis vraiment désolée, c'est pas correct.
Ça arrive.
Mais c'est un très très beau projet, comme beaucoup. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que tous les projets sont différents. Il y a des projets qui vont être plus axés théâtre, plus musique, plus de l'ordre de la performance. C'est très riche et très varié.
Super, mais merci beaucoup. Rendez-vous du coup demain soir.
Oui, demain soir, à partir de 19h, mais l'émission elle commence à 20h.
Ok, à partir de 19h au domaine du Tizé pour clore en beauté cette licence.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
6h avant minuit.
C'est l'heure de se pencher sur un sujet qui secoue le monde du football français, la menace de dissolution qui pèse sur plusieurs groupes de supporters ultra. Quels sont les enjeux? Quelles sont les réactions des clubs et des supporters? Marilyn nous en dit un peu plus dans sa chronique sport.
Bonsoir.
Rebonsoir.
Et oui, aujourd'hui on entend deux fois ma jolie voix.
C'est une émission spéciale.
Et oui. Donc ce soir, effectivement, le focus se porte sur les tribunes et l'actualité brûlante, la menace de dissolution qui plane sur plusieurs groupes ultra en France. Une politique répressive qui, sous couvert de sécurité, interroge profondément la liberté d'expression et l'essence même du supporterisme. Le ministère de l'Intérieur a récemment initié des procédures de dissolution visant 5 groupes. La Brigade Loire de Nantes, les Magic Fans et les Green Angels de Saint-Étienne, les Offenders de Strasbourg et la Légion X du Paris FC. Si Bruno Retailleau n'a pour l'instant ciblé que les Stéphanois, cette annonce a créé une onde de choc dans le milieu ultra. L'enjeu est double. Pour le gouvernement, il s'agit de reprendre le contrôle face aux incidents récurrents, et pour les supporters, c'est la crainte d'une atteinte à leur identité et à leur manière de vivre leur passion. Car oui, je le rappelle, les ultras et les hooligans sont deux groupes différents. Les ultras sont là pour animer le stade, ils ont une importance dans la vie du club, alors que les hooligans sont là pour se battre et un peu foutre la merde. Pour rester poli, évidemment. Ce n'est pas la première fois, donc on se souvient du plan Le Prou au PSG. Donc comme j'ai parlé de d'ondes de choc, c'est à ça que ça fait référence. Donc en 2010, suite au décès tragique de Yann Laurence, la dissolution des Boulogne Boys et des Supra Auteuil avait certes pacifié le Parc des Princes, mais ça a aussi considérablement aseptisé l'ambiance. Et c'est ce qui est craint tous les groupes ultra. Bien qu'aujourd'hui, on ait un cup qui met de l'ambiance et qui est reconnu partout, ça n'est pas pareil par rapport à avant, puisqu'il y a un peu une mainmise aussi de la présidence sur le club, et c'est ce que les autres groupes ultra ne veulent pas. Malheureusement, ces dernières saisons ont été marquées par une recrudescence d'incidents. Jets de fumigène, comme lors du match Montpellier-Saint-Etienne récemment interrompu, il y a eu un début d'incendie carrément. Jets de projectiles à l'image des protestations de la Brigade Loire à Nantes. Affrontements en marge de rencontres comme la risque entre les supporters d'Auxerre et de Marseille en février dernier. Et des banderoles injurieuses, comme ce qui s'est passé lors du classico entre Marseille et le PSG à l'encontre de Véronique Rabiot et de son fils. Bon, ça a eu un grand retentissement. Il y a la ministre des Sports qui a parlé, la fédération qui a parlé exactement. Donc, face à cette situation, la menace de dissolution a été brandie. Mais c'était sans compter la solidarité du mouvement Ultra. L'Association nationale des supporters a réagi fermement. Retrait de l'instance nationale de supporterisme, arrêt du dialogue avec les autorités et même une réflexion sur une auto-dissolution collective. Certains groupes, comme les Ultra Roister de Valenciennes, envisagent déjà cette option pour ne pas être réduits au silence. Cette répression sélective interroge. Pourquoi cibler certains groupes alors que d'autres, parfois tout aussi impliqués dans des incidents, semblent épargnés, notamment avec les groupes d'ultra-droite et d'extrême-droite qu'on peut voir ces derniers temps. L'ANS dénonce des arrêtés préfectoraux et ministériels injustes, donc c'est dans la continuité, puisque on prive les supporters de déplacement depuis de nombreuses années maintenant. Donc face à ces menaces, un large mouvement de soutien s'est organisé. Donc des élus locaux de Saint-Étienne et d'ailleurs ont exprimé leur solidarité, soulignant leur rôle positif dans l'animation des stades, de la vie sociale des clubs, et ils mettent en avant les tifos spectaculaires, le soutien financier aux équipes et la passion authentique que représentent ces groupes. Donc la protestation prend de l'ampleur, il y a 163 groupes de supporters qui ont signé une pétition de la Ligue 1 à la régionale, et qui affirment que leur passion ne se dissout pas. L'ANS alerte sur les conséquences potentielles chaotiques de ces dissolutions, notamment en termes d'organisation des déplacements et de sécurité autour des stades en l'absence d'interlocuteurs structurés. Comparativement à l'étranger, les approches diffèrent. En Allemagne, les dialogues entre les clubs et les ultras est privilégié, avec des responsables supporters intégrés aux structures des clubs. Le Borussia Dortmund en est un exemple, maintenant un lien constant avec sa sud-tribune, tout en sanctionnant individuellement les débordements. En Italie, la situation est plus complexe en raison de la puissance de certains groupes. En Angleterre, une répression sévère post-hooliganisme a réduit la violence, mais aussi a transformé l'ambiance globale des stades. Il est crucial de distinguer la majorité des ultras passionnés et créatifs de la minorité violente. Dissoudre collectivement des groupes pour les actes de quelques-uns est une injustice. Nous plaidons pour une tolérance zéro face à la violence, mais avec des sanctions individuelles et ciblées. La dissolution est une solution simpliste et rarement efficace à long terme. Elle risque de marginaliser et de disperser les éléments violents sans adresser les causes profondes. Il est temps d'une approche plus intelligente, alliant fermeté contre la violence individuelle et reconnaissance du rôle positif de la culture ultra en France. L'âme de nos stades en dépend.
C'est dit. Merci Marilyn pour cette double participation. Un dernier petit mot avant qu'on se quitte.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô.
Allô.
Syllabe, la radio sauvage.
Le répondeur est vide ce soir, mais il ne tient qu'à vous de le remplir. Et oui. Laissez-nous un message vocal. On vous écoute. Si vous avez quelque chose à dire, un message à faire passer, un retour sur la chronique de Marilyn. Je ne sais pas.
Appelez-nous.
Appelez. Qui sait ? Appelez. Le numéro, c'est le 02 30 96 25 35. Merci Cess pour la technique et à demain dans 6 heures avant minuit.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs vitaux.
6 heures avant minuit. 18h, 19h. Sur Syllabe,
la radio sauvage.